Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
Bienvenue à toutes et à tous. Lorsque la vie ne nous ménage pas physiquement, lorsqu'elle entraîne justement une maladie et cette maladie entraîne un handicap, eh bien, entre résilience et combat, on y va pour les détails avec ma femme d'aujourd'hui.
Mehdi 1, Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Lala Najir, merci beaucoup d'être ma femme d'aujourd'hui. Je remarque Lala Najir, labas alik.
Merci à vous de m'inviter. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Alors, merci aussi d'accepter de parler de cette condition que vous avez actuellement depuis quelque temps.
Oui, de mon handicap.
Alors, justement, c'est une question. Oui. Vous anticipez ma question. Alors, d'abord, on va mettre les choses dans leur contexte. Vous souffrez de sclérose en plaques.
Oui, d'une maladie auto-immune.
C'est une maladie auto-immune qui va vous handicaper au quotidien, c'est ça?
Oui, c'est une maladie auto-immune qui attaque le système nerveux central.
C'est ça.
Donc, qui attaque les membres, qui attaque beaucoup de parties du corps.
Du corps.
Donc, au tout début de la maladie, j'étais normale, plus ou moins. Et je faisais des poussées. Et après les poussées, je gardais des séquelles. Et après, ma maladie, elle a switché en une forme progressive, continue.
Continue. Alors, on va y aller petit à petit.
C'est pour ça que l'handicap s'est installé.
OK. Alors, justement, est-ce que c'est une maladie ou c'est un handicap?
Là, c'est une maladie. C'est une maladie auto-immune. C'est-à-dire le système nerveux central, il commence à flasher.
Oui. Et ensuite, l'handicap...
Dans le sens, il attaque les membres.
Oui.
Il attaque vraiment tout ce qui est moteur.
Mais alors, est-ce qu'on la met dans la l'khana, comme on dit en arabe, de la maladie ou de l'handicap, quand on parle de sclérose en plaques?
Non, on parle de maladie.
On parle de maladie. Mais l'handicap s'installe.
Il y a des gens qui vivent avec la sclérose en plaques et qui sont plus ou moins normaux.
Autonomes.
Moi, pendant plus de 10 ans, je suis restée normale. Je marchais... J'avais toutes mes capacités motrices.
D'accord.
Et là, quand on parle d'handicap, c'est vraiment un handicap moteur.
Moteur, OK.
Oui, parce qu'il faut absolument que les gens fassent la différence entre l'handicap moteur et l'handicap mental.
Bien sûr. Alors, oui. Vous avez quel âge, Hélène, j'y ai aujourd'hui?
58 ans.
58 ans. La maladie s'est installée il y a combien d'années? Les premiers symptômes étaient là quand?
Le premier symptôme, c'était en 2007. Et après, la maladie s'est calmée. J'ai eu une période de rémission.
Donc, après la quarantaine, c'est ça?
Pardon?
Après la quarantaine?
Vers la quarantaine. Oui, c'est là où la maladie intervient en général.
OK.
Elle apparaît, oui.
C'est l'âge où la maladie intervient? En moyenne?
Oui, c'est là où la maladie en moyenne, c'est entre 20 et 40 ans.
D'accord. OK. Est-ce que vous avez des antécédents dans la famille?
Pas du tout.
Pas du tout.
Oui, je suis la première à l'avoir eu, mais là, apparemment, j'ai deux de mes cousines qui ont la même chose.
D'accord.
Sauf qu'elles n'ont pas de problème moteur.
OK. Alors, on va y aller petit à petit. L'allergie. Premier symptôme, ça s'est déclaré comment et vous étiez à quelle étape de votre vie?
Oui, j'avais à peu près 40 ans. J'avais exactement 40 ans quand j'ai eu une diplopie, c'est-à-dire une vision double. C'est-à-dire que c'était le nerf optique qui a été touché.
En premier. Mais on a tous des visions doubles parfois.
Oui, à cause de la fatigue. C'est vrai que je passais par une période très stressante, très difficile. J'étais en France à l'époque. Donc, je passais par une période qui était un peu difficile, qui a un petit peu déclenché la maladie.
Oui. C'est quel genre de passage difficile? Pourquoi je vous pose la question? Parce qu'on dit toujours aux gens, ménagez-vous, prenez soin de vous, etc. Mais on reste dans le générique.
On reste dans le générique.
Vous, concrètement, à ce moment-là, vous passez par quelle période? Par quelle phase?
J'avais ma fille qui était malade, donc j'étais avec elle en France pour une greffe de cellules souches.
D'accord. Et elle va comment aujourd'hui?
Elle va très bien, elle a 30 ans maintenant.
Alhamdoulilah.
Elle avait 9 ans à l'époque.
Alhamdoulilah, alhamdoulilah. Et donc un jour, vous vous êtes réveillée avec une vision double, c'est ce qui s'est passé?
Tout à fait, oui, tout à fait.
Au réveil.
Tout à fait.
Et donc, vous avez mis ça sur le compte du stress ou vous êtes allée voir un médecin?
Non, j'ai mis ça sur le fait que j'étais stressée, fatiguée. J'ai traîné ça pendant un mois, j'ai même pas fait attention. C'est juste... au moment d'une consultation pour ma fille, que le médecin a vu que je cachais mon œil, elle m'a demandé pourquoi je cachais mon œil. J'ai dit que j'avais une diplopie. Et pour elle, elle qui est hématologue, elle m'a dit « Écoutez, madame, une diplopie, ça cache quelque chose de sérieux.
» Donc la première fois, qu'est-ce qu'on vous a dit, puisqu'on ne vous l'a pas diagnostiqué la première fois, qu'est-ce qu'on vous a dit justement? Qu'est-ce que c'était?
Une inflammation quelque part. Donc,
d'accord.
Mais ça cachait une maladie quelconque, mais on ne pouvait pas trancher.
Ok.
Et on vous a... un seul épisode, on ne pouvait pas trancher.
Trancher,
donc,
c'est ça.
Attendre, oui.
Et donc, en fait, vous ne vous êtes pas inquiété plus que ça?
Du tout. J'ai même oublié cet épisode, je l'ai vraiment oublié. C'est vraiment en 2014 que... les choses se sont aggravées. Oui.
Donc, 7 ans après, 2007-2014.
Oui, tout à fait.
Ok, 2014, qu'est-ce qui se passe?
Suite à un décès. Suite au décès de ma mère, ça a déclenché encore. J'ai senti que mes jambes étaient lourdes.
Okay. Cette fois-ci, c'était les jambes.
Oui, c'était les jambes.
Et donc, qu'est-ce que vous avez fait?
Rien du tout. Hein. Il fallait passer par la... partout, vous connaissez, nous au Maroc, au décès, on est obligé de recevoir des gens, d'accueillir les gens, vous savez, tout le rituel à faire. Donc je me suis un petit peu oubliée.
Oui.
Encore une fois.
Encore une fois, c'est ça.
Oui.
C'est incroyable, vous le dites bien, encore une fois, justement.
Oui.
Et à ce moment-là, cet épisode a duré combien de temps?
Pas très longtemps, quelques heures.
Ah, c'est tout?
Ah, c'est tout, oui. C'est
et
tout.
Après,
c'est vraiment
votre motricité
quelques mois après que la maladie a commencé à vraiment s'installer.
D'accord, ok. Alors, quand vous dites la maladie a commencé à s'installer, vraiment s'installer, c'est-à-dire?
Donc, s'installer, c'est-à-dire avoir des symptômes, vraiment des symptômes sérieux.
Comme quoi, par exemple?
J'arrivais plus à me lever. Quand il faisait très, très chaud, j'étais toute molle. Je n'arrivais pas à bouger. Je n'arrivais pas à me mettre debout. Au point qu'une fois, on était à la plage. J'ai oublié que... j'ai même pas fait attention au soleil. Je suis restée quelques heures au soleil. Et mon corps n'a pas tenu le coup. Donc, au moment du départ, j'arrivais pas à me mettre debout. Il fallait qu'on me porte jusqu'à la voiture pour que je rentre chez moi.
Mais j'imagine que ça devait être l'épisode le plus...
oui. Et étant femme de médecin, donc ça a déclenché chez mon mari. Vraiment, il a commencé à penser à beaucoup de choses.
Ben oui,
c'est
parce...
là où j'ai été consultée, oui.
Un neurologue directement?
Tout à fait.
Ok. Alors, quand on arrive chez le neurologue... comment ça se passe, justement? Comment se pose le diagnostic de la sclérose en plaques?
Oui, malheureusement, on ne parle pas au malade, on parle à celui qui l'accompagne. On lui dit peut-être que c'est une septe, comme ça. C'est une septe, alors que moi, j'ai interpellé le médecin, j'ai dit, écoutez, c'est moi la malade. Une septe, c'est quoi? C'est une abréviation de
la sclérose en plaques, absolument.
Oui, tout à fait. Oui.
Oui.
Et c'est là où on m'a envoyé faire une IRM. Et suite à l'IRM, le diagnostic a été posé.
Alors, quand on fait l'IRM, c'est pour voir quoi exactement?
Les plaques, les lésions qu'il y a dans le cerveau.
Ah, c'est une maladie au niveau du cerveau?
Oui, c'est le système nerveux central, oui.
Ok. Et donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on voit? On voit apparaître des taches, c'est ça?
Oui, quelques tâches, oui, et qui confirment la maladie.
Ok. Donc, quand le diagnostic est tombé, vous aviez 47 ans?
Tout à fait.
47, 48 ans. Qu'est-ce qu'on vous a dit à ce moment-là? Qu'est-ce qu'on vous a dit? Alors, autre chose, parce que l'idée d'en parler aussi, c'est aussi de sensibiliser. Oui. Est-ce que si vous aviez pris les choses plus au sérieux, mais en même temps, on ne peut pas devenir hypochondriaque. L'idée, ce n'est pas non plus de faire peur aux gens, leur dire dès que vous ressentez un symptôme, allez courir chez le médecin. Comment balancer le fait de creuser un peu plus? Et est-ce que les médecins vous ont dit que vous auriez dû, à ce moment-là, 7 ans avant, creuser un peu plus?
Non, du tout. Non. On ne blâme pas un patient, parce qu'on est ignorant.
Bien sûr. Mais vous, aujourd'hui, est-ce que vous dites aux gens d'aller creuser forcément un peu plus?
Oui. Et surtout, de prendre leur traitement qui n'est pas curatif, parce qu'il n'y a pas de traitement curatif, mais de prévention, pas de prévention, mais qui retarde un peu la maladie. Mmh. C'est ce que je dis aux malades, parce que là, je suis présidente d'une association ici au nord du Maroc de sclérose en plaques qui s'appelle Normacep.
Ok.
Donc, j'essaie de sensibiliser les gens, de les pousser à les consulter et commencer leur traitement dès que possible, même si les traitements restent très, 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 très chers.
Quand vous dites aux gens qu'ils doivent absolument prendre leur traitement de façon sérieuse, pourquoi? Parce que la personne malade a tendance à ne pas le prendre quand elle n'est pas en poussée?
Oui, je suis une personne qui a fait une erreur dans sa vie, si on peut dire, que j'avais un traitement. On appelle ça des traitements qui repoussent la maladie ou qui retardent
l'évolution.
L'évolution de la maladie.
Des traitements préventifs.
Ils ne sont pas préventifs. Préventifs, c'est-à-dire pour ne pas avoir la maladie. Mais là, c'est pour ne pas avancer.
Oui. OK. Préventifs dans l'évolution.
Des immunosuppresseurs.
Et pourquoi vous les avez arrêtés?
Je vais vous dire, j'avais 3 injections par semaine.
Ok.
À m'auto-injecter.
À quel niveau?
C'est-à-dire à n'importe quel membre du corps, c'est-à-dire au niveau du ventre, des cuisses ou autre. Ça n'a pas d'importance parce que c'était sous-cutané.
Ok.
C'est vrai que ce n'est pas douloureux, mais les effets secondaires étaient énormes.
Comme quoi?
C'est ce qui m'a... Des fois, j'en avais marre et j'ai dû arrêter.
Et c'est quoi les effets secondaires, l'analgésie?
Syndrome grippal d'abord.
OK.
Syndrome grippal, c'est-à-dire vous êtes injecté aujourd'hui, vous faites votre injection. Le soir, vous avez de la fièvre. Le lendemain, vous êtes très fatigué. Et le surlendemain, vous êtes obligé de refaire votre injection, c'est-à-dire... 7 jours sur 7, vous avez le syndrome grippal. Vous êtes comme une personne qui a la grippe tout le temps.
Tout le temps.
Hein. Sans parler d'autres effets secondaires qui sont peut-être minimes. Mm. Mais bon, l'irritation, l'anxiété, beaucoup de choses.
La fatigue, sans parler
de la fatigue qui est un facteur commun chez tous les malades.
Récurrent. Ouais. Donc en fait, quand vous dites aux gens prenez vos médicaments, parce que en fait... C'est tellement dur, mais ne lâchez pas, c'est ça?
Exactement. Surtout que maintenant, il y a des médicaments qu'on peut avoir une fois tous les 6 mois, ou par voie orale, c'est des comprimés. Moi, à l'époque, je n'avais pas ça. Moi, j'avais des injections. Si à la rigueur, j'avais des comprimés à prendre, je n'aurais jamais arrêté.
Mais en fait, c'est tellement difficile parce que la personne est malade et même le traitement qu'elle prend la rend malade, en fait.
Exactement.
Et ça,
elle
c'est
la rend faible, alors que la maladie, déjà, la rend faible.
Mais c'est un dilemme.
C'est un vrai dilemme. En plus, c'est coûteux, je ne vous dis pas. Hein. Ça peut coûter entre 10 000 et 30 000 dirhams par mois.
OK. Et donc, vous êtes présidente d'une association. Les plus démunis font comment?
C'est ça le problème. Nous, les gens qui viennent, il n'y avait que les Ramédis qui venaient à l'association. Les gens qui ont de l'argent ou qui ont des prises en charge ou des assurances privées ou la CNSS ou la Sécurité sociale. Donc, c'est des gens qui ne venaient même pas à l'association. C'est vraiment les plus démunis qui venaient.
Et ils font comment, justement, ces jeux?
Ils ont juste des bolus de corticoïdes à l'hôpital et c'est tout, quand ils ont des poussées. Ils ne peuvent pas se permettre, même jusqu'à maintenant avec la CNSS. Il y a beaucoup de refus. Ouais.
Mais même vous, je veux dire, vous l'avez dit, vous êtes, je suis femme de médecin, mais même 10 000, 30 000 dirhams le mois, mais c'est un sacré
ah oui,
budget.
Heureusement que nous, à l'époque, on avait une assurance privée.
D'accord.
Oui. Vu qu'on est passé par, bien sûr, ce que je vous ai raconté au tout début, on est passé par une période où on n'avait pas d'assurance, on a su qu'une assurance était obligatoire.
Exact, exact. Alors, la laryngite, donc vous dites, c'est parce que vous n'avez pas continué votre traitement qu'aujourd'hui, la maladie s'est installée en forme d'handicap moteur ?
Possible, je dis que c'est possible. J'aurais aimé garder mon traitement et continuer mon traitement, mais elle est imprévisible,
visible.
Cette maladie.
Ouais, ouais.
On peut même être sous traitement et évoluer.
C'est ça.
Parce que moi, par la suite, j'ai eu un traitement le tout dernier, c'est un immunosuppresseur, et c'est le tout dernier traitement qu'il y a, donc, mais ça n'a pas marché sur moi. Donc là, apparemment, la maladie allait évoluer de toute façon.
Oui. Vous en êtes où aujourd'hui, la laryngite, dans votre vie?
Moi, je suis en fauteuil roulant depuis à peu près 4 ans et demi.
D'accord.
J'ai beaucoup d'incapacités motrices, beaucoup d'handicaps qui se sont installés. Heureusement qu'il y a que j'ai ce poste au niveau de l'Alliance, que je suis membre de deux groupes très intéressants, un avec les chercheurs et un avec les malades. Donc je me déplace un peu dans le monde, un peu partout dans le monde.
Donc vous partez en voyage souvent ?
Souvent. Est-ce que c'est une vraie contrainte ?
Ouais.
C'est ce dont je voulais parler au tout début.
Le déplacement.
Les déplacements, oui. Les déplacements, le fait d'être en fauteuil roulant, surtout ici au Maroc. Moi, je parle du Maroc. Mais parce qu'une fois, à l'étranger, je ne sens pas la différence. Je suis une personne normale. Vous comprenez ce que
oui.
je veux dire ?
Oui, allez-y plus dans les détails. Ce que vous voulez voir
oui.
changer, ce qui vous dérange au quotidien. Allez-y, c'est votre espace de parole, la laryngite.
Oh, oui, merci beaucoup. Si je peux parler de l'accessibilité ici au Maroc, on peut dire archi absente, inexistante. Parce que pour vous dire, moi j'habite à Tétouan et en face de chez moi il y a un café. C'est-à-dire, ça m'arrive d'avoir envie de prendre un café à l'extérieur avec mon mari ou mes filles. Impossible de traverser la rue. C'est une grande avenue, impossible à traverser. Il y a beaucoup d'obstacles. Les gens ne respectent pas les gens en fauteuil roulant. Personne ne s'arrête, même sur un... Moi, je vous dis, je suis sur un passage piéton et personne ne s'arrête pour me laisser passer. C'est vraiment... Et même si je passe, si on me laisse passer, je vais trouver en face de moi un trottoir.
Ouais, ouais.
Accéder au restaurant ou au café d'en face, c'est vraiment un dilemme. Sans parler, bien sûr, des déplacements à l'étranger. Pour prendre l'avion, déjà pour prendre l'avion, je ne vous dis pas, Madame Yasmine, j'ai la frustration que j'ai ressentie la première fois en prenant l'avion ici.
En fauteuil roulant.
En fauteuil roulant. Imaginez, vous arrivez à l'aéroport. Arriver devant les escaliers de l'avion, il y a quatre personnes qui arrivent, ils vous disent « Madame, on va vous porter ». Oh, ça, c'est humiliant. Ça, c'est frustrant. Je ne peux pas vous dire, je ne pouvais pas imaginer la frustration que j'ai ressentie. J'ai dit « Comment ça, vous allez me porter, mais vous n'avez pas de grue pour porter les personnes en fauteuil jusqu'à l'avion ?» Ils disent non, on ne l'a pas ici.
Ces voyages, c'est votre bouffée d'oxygène à vous, en fait.
Tout à fait, c'est ce que j'allais dire. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est vraiment une bouffée d'oxygène pour moi. Je frôle la dépression, des fois, mais je me reprends. Je plains les gens qui sont en fauteuil roulant ici et qui ne sortent pas, qui sont cachés par leur famille.
En tout cas, Laila Najia, merci infiniment d'avoir parlé avec autant de
merci
cœur, de force. Je trouve un seul mot à dire. Vraiment, la like mec. Ou à toutes
merci
les personnes
beaucoup.
Qui sont dans cette situation.
Merci beaucoup.
Merci à toutes et à tous pour votre confiance. Femme d'aujourd'hui et sa version homme, c'est du lundi au vendredi sur les ondes de Média et à tout moment, à la demande et en avant-première sur Média Podcast et les plateformes de podcast habituelles.